C'est le 9 mars 2006 que la loi électorale a été adoptée. À ce moment-là, j'étais vice-président de la commission électorale indépendante. Pour le moment, après les modifications subies en 2011, en 2017 et en 2022, il ressort qu'il y a encore des écueils à modifier. Il s'agit notamment, un, de voir certains candidats se présenter à plusieurs scrutins à la fois, pendant le même cycle, dans la même circonscription, dans plusieurs circonscriptions. Exemple, quelqu'un qui peut être candidat président de la République, quelqu'un qui peut être à la fois député national, provincial, mais aussi conseiller communal. L'innovation que nous apportons, il faut l'unicité des candidatures. C'est porter candidat à un seul scrutin. Mais si, pendant le même cycle, vous avez échoué à un scrutin, la possibilité vous est donnée d'aller encore compétir pour les cycles suivants. Le deuxième point d'innovation, c'est l'article 10 où l'on parle de l'inéligibilité. On parle des cas d'inéligibilité pour les fonctionnaires. Si on est fonctionnaire, on doit avoir une mise en disponibilité. Si on est dans une entreprise publique, on doit également démissionner. Si on est au Conseil économique et social, on doit démissionner. Si on est à la magistrature, on doit démissionner. Et dans toutes les institutions d'appui à la démocratie. Mais on ne dit rien en ce qui concerne les membres du gouvernement provincial ou les membres du gouvernement national. Pourtant, il faut dans les élections l'équité et l'égalité. Quand ils viennent. Moi-même, j'ai été candidat en 2011, j'étais ministre de l'Agriculture. Quand ils viennent, même s'il y a un article qui prévoit à ce que l'on ne puisse pas utiliser le matériel de l'État, on peut laisser le véhicule, mais on reste ministre, on reste gouverneur et la population vous respecte comme tel par rapport à un enseignant du village, par rapport à un infirmier, par rapport à un membre de la société civile ou à un paysan qui veut compétir avec vous. Les quitter voudrait que tous puissent d'abord quitter leurs fonctions. Il y aurait des intérimaires pendant cette période-là. À un certain moment, en 92, j'ai vu un secrétaire général devenir premier ministre dans notre pays. Aujourd'hui, en France, il y a la ministre de la Culture qui veut devenir maire de la ville à une élection locale. Elle venait de déposer sa démission pour qu'il y ait égalité des chances à tous. Le troisième point concerne le président de la République. Lui ne peut pas quitter parce qu'il représente la nation et la Constitution le protège parce que le président de la République, selon la disposition constitutionnelle, doit quitter à la fin de son mandat. Donc il est protégé et il est recommandé à la CENI de convoquer l'élection présidentielle à 90 jours d'avant la fin de son mandat. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas comparer l'institution président de la République à l'institution gouvernement, à l'institution cours et tribunaux ou à d'autres institutions d'appui à la démocratie. Je voudrais également parler des femmes. Le même article 13 a été revu plusieurs fois. L'article 14 de la Constitution parle de la parité homme-femme. Ça n'a jamais réussi parce que dans la loi électorale de 2006 dont je vous parle, on a mis six léchés. Et six léchés, ça signifie ça peut ou n'est pas. En faveur des femmes, on a voulu parler des listes qu'on a appelées zébrées. Trois hommes, par exemple, et trois femmes. Ça n'a pas également réussi parce que cette liste était traduite, même dans la loi actuelle de 2022, par les 50% des femmes qui devraient être présentées. Et à ce moment-là, une telle liste ne devrait pas payer la caution. Mais on ne les a pas vues. On n'a jamais eu un parlement même de 100 femmes. On a des parlements de 50, 60, ça ne dépasse pas 13%. Nous avons pensé comme au Sénat de 2022 à une discrimination positive en faveur des femmes. Quand il y a des listes où il y a trois sièges, que le troisième ou la troisième place soit réservée aux femmes, c'est-à-dire à la femme la mieux élue, qu'on appellerait à un certain moment la joker des femmes. Si pour les deux postes, il y a encore une femme prédominante, ça ne change pas cette loi. À ce moment-là, on aurait deux femmes sur la liste. de lits et un homme, ou alors trois femmes. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a 127 circonscriptions qui ont trois sièges. On aurait directement à dégager 127 et les 50-60 autres sièges qui se représentent depuis 2006, il y a de cela 20 ans, peuvent augmenter 60 sièges et on aurait un parlement de plus ou moins 180 femmes différentes de ces 50 ou 60, 65 que nous avons aujourd'hui. Le quatrième point, c'est le point qui concerne les suppléants. Les suppléants, aujourd'hui, ce sont les cousins, la famille elle-même ou d'autres. Je sais que c'est un point sensible, mais dans ces pays, il y a eu un certain moment où les suppléants venaient directement de la même liste électorale. 77-82, les suppléants venaient de la liste du parti, parce que c'était un parti unique, et il était donc celui qui succède à celui qui était là et non un membre de famille ou quelqu'un d'autre. L'innovation que nous apportons ici, nous avons des regroupements, nous avons des partis politiques. Quand vous avez perdu votre mandat, vous êtes nommé, vous êtes décédé, vous avez démissionné, parce que ce sont là les conditions, ou vous êtes invalidé, c'est lui qui doit faire la suppléance à vous. C'est le deuxième qui vous a suivi directement sur votre liste du parti. Moi, je suis du regroupement AN. Si je ne suis pas donc député national ou sénateur à ce moment-là, c'est celui qui me suit directement sur cette liste-là qui pourrait directement me remplacer et non mon fils ou ma femme. Le point qui suit après celui de suppléance concerne les CELSER, les centres locaux de compilation des résultats. Ces centres locaux de compilation des résultats fonctionnent depuis 2006, mais ils sont devenus obsolètes à partir de 2018 parce que en 2018, la machine à voter devenue aujourd'hui dispositif électoral de vote a directement changé la fonctionnalité de ces CELSER. Nous les remplaçons par les centres de tri et d'affichage, de tri et d'affichage, de pli et de PV. Nous savons que la machine à voter ou les dispositifs électoraux de vote a un dispositif d'envoyer, même en pleine forêt, même dans un village reculé, les résultats comme on le fait en Europe. Et directement, ça atteint les centres nationaux de traitement à Kinshasa. Il ne faut pas donc que nous laissions la population dans l'ignorance en train de poser la question pourquoi les CELSER de 2018 et de 2023 ne se sont pas mis à compiler les résultats. Et cette communication, je la fais maintenant pour que les CELSER disparaissent au niveau de l'antenne de la CENI, mais qu'on mette directement son remplacement par un centre de traitement, de triage et d'archivage de plis et de PV qu'on doit envoyer ici à Kinshasa, au CEP et dans les cours et tribunaux, c'est-à-dire à la cour constitutionnelle, à la cour d'appel ou à la cour administrative, selon les cas. Le dernier point concerne la transmission des données. C'est aux témoins de garder les PV parce que la transmission devient par vote à ce moment-là semi-électronique. Les votes, on ne doit pas se poser la question, est-ce que c'est un vote manuel, est-ce que c'est un vote électronique, est-ce que c'était un vote semi-électronique. Nous optons pour ce que nous faisons depuis 2018. Depuis 2018, nous faisons un vote semi-électronique. Ce vote n'est pas un vote électronique parce qu'il est matérialisé. Il y a un bulletin de vote. Et quand il y a un bulletin, ce qui est électronique n'est pas matérialisé. Il y a également un bulletin qui fait que ça devient semi-électronique. À cause de ça, quand il y a divergence des résultats, on doit voir les résultats qui se trouvent au Centre national de traitement à Kinshasa et les bureaux de vote. Donc, on a compté les résultats du bulletin papier. Et l'exigence, c'est de les afficher bureau de vote par bureau de vote pour servir de comptassier en cas de besoin. Le dernier point concerne les seuils. La CENI vous dit, tel a atteint le seuil, tel n'a pas atteint le seuil. Mais il n'y a aucune disposition dans la loi où l'on dit que si on est satisfait du seuil, ou si l'on n'est pas satisfait, qu'on peut ouvrir un comptassier sur le seuil. Il faut que ces dispositions soient mises dans la loi électorale, parce qu'on amène la CENI avec des dispositions que nous connaissons sur les résultats, ce qu'on appelle l'éducation des erreurs matérielles et autres, mais sur les seuils, on n'a jamais parlé d'un comptage de seuils. Est-ce que vous avez atteint les seuils? Est-ce que vous n'avez pas atteint les seuils? Où est-ce qu'on les compte? Il faut que cela soit mis dans la loi et que les cours et tribunaux sans saisir. Et enfin, nous retenons le seuil d'éligibilité de 1%, de 3%, 1% pour les nationales, 3% pour les provinciales et 5% pour les communales qui étaient à 10%. Mais nous rejetons dans cette loi le seuil de recevabilité qui était de 60%, qui a paru un remplissage des listes et qui a augmenté abusivement les temps, les tensions et le nombre des candidats à plus de 26 500, au provincial à plus de 21 000 au niveau national, sans que ces gens ne soient même présents dans leur circonscription. Voilà l'essentiel des innovations que nous voulons apporter ici. Nous croyons que les gens vont soutenir tous ces projets parce que ça fait débat. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons contacter la société civile. Nous l'avions déjà contactée. Nous allons contacter les partis politiques, nous allons contacter les députés, les sénateurs pour appuyer ces lois parce que nous vivons des villages. Les 445 députés viennent de l'intérieur et il n'y a que 55 députés ici à Kinshasa. C'est parce que nous voulons une loi du peuple qui répond donc aux besoins des citoyens. C'est ça. Des points qu'il faut débattre en ce qui concerne cette représentation à beaucoup de niveaux, ces suppléants familiaux, les gouverneurs et les ministres qui sont des candidats, les suppléants tels que j'en ai parlé, le seuil de recevabilité, les CELSER devenus inopérationnels. Et moi, je pense que les gens qui connaissent la transparence dont on veut pourraient avoir les résultats dans 2-3 jours parce que tout est bien dicté. Les bonnes lois font de bonnes élections.